Et on accueille notre chroniqueuse littéraire préférée, Chloé Boudel.
Bonjour Yacine, bonjour à tous. Alors, il y a un an et demi, j'ai déménagé à Marseille. Un train direct du nord au sud avec mon sac à dos. Prête pour une nouvelle vie, un peu naïve sur le fait que les nouveaux départs permettent de faire table rase du passé. Et depuis ? Depuis, non seulement le passé est toujours là, mais j'ai en plus l'impression de m'être perdue en déménageant, et d'être en quête d'un perpétuel ancrage dans cette nouvelle ville. Je cherche une place, ma place. Alors j'ai relu l'excellent livre de Claire Marin, « Être à sa place », qui explore ce besoin que chacun a de trouver une place. Claire Marin nous invite à réfléchir sur ce besoin. Est-ce vraiment un besoin? Ou plutôt une injonction de la société? Pour elle, le propre d'une place, c'est d'être en évolution constante. C'est de se déplacer encore et toujours. Pour l'autrice, tous les jours est un micro-déplacement de notre être. Je l'ai vu un peu comme des chaises musicales. On croit être en sécurité, avoir une place quelque part. On s'assoit, puis la musique recommence, et tout redevient mouvement. Et alors, il faut se recréer une place ailleurs. Ce livre m'a fait du bien, mais j'ai senti que ce n'était pas exactement ces mots-là dont j'avais besoin. Je n'y ai pas trouvé toutes les réponses aux questions qui me traversent depuis quelque temps. Bon, il faut dire que je m'en pose tellement qu'aucun livre ne saurait répondre de manière exhaustive à tous mes questionnements. Et puis, j'avais un peu la pression de cette deuxième chronique, à cause, ou plutôt grâce à tous vos retours. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir été si nombreux à m'écouter. J'étais donc là à me dire, être à sa place ne sera pas ton sujet de chronique. Il faut que tu trouves quelque chose d'autre. Ne perds pas ton temps sur des livres sur lesquels tu ne peux pas écrire une chronique. Il faut que tu sois efficace, répondre à tes questionnements et lire des livres qui te permettent de passer à la radio. Alors que la littérature était l'un des seuls domaines où je ne m'étais mise aucune pression, car dans la lecture il n'y a ni échec, ni réussite, juste le plaisir de se laisser emporter, ou non, par des histoires. Mais voilà que les chroniques venaient changer la donne. Pendant une dizaine de jours, j'ai commencé un nombre de livres incalculables. Des livres que j'avais déjà lus, des livres qu'on m'avait conseillés, des livres qui avaient le vent en poupe. Mais rien ne me plaisait, rien ne m'emballait vraiment. Je commençais à désespérer de trouver un bon sujet, quand j'ai décidé de laisser faire les choses, de laisser couler. Note pour moi-même, le lâcher prise a du bon. Et c'est comme ça qu'à un moment, le choix du livre m'est apparu comme une évidence, lors d'une journée avec mes étudiants. Je suis prof de français langue étrangère, j'enseigne donc le français à des primo-arrivants, et nous faisions une séquence sur les origines, la richesse et parfois la difficulté que peut représenter une double culture. Et ça m'est venu d'un coup. Quelle rupture, psychique, géographique ou encore linguistique dans une vie que de quitter son pays et de tout recommencer. De réapprendre une nouvelle langue, de nouveaux codes sociaux, de nouvelles façons d'interagir avec les autres. Pour eux, c'est une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle façon de s'incarner. Je n'avais jamais pensé ce déracinement en termes de rupture. Vous étiez rédactrice à la télévision nationale, metteur en scène, architecte ou encore responsable de la sécurité, et d'un coup, vous n'avez plus de place. Votre identité est morcelée. En perdant votre langue maternelle, votre culture, votre métier, vos habitudes, vous perdez presque une partie de vous, et il vous faut patiemment construire ou reconstruire tout ce que vous preniez pour acquis. Et si, bien sûr, ma situation est sans commune mesure avec celle que mes étudiants vivent au quotidien pour s'intégrer dans ce nouveau pays qui est maintenant le leur, j'ai l'impression que leur situation fait écho à la mienne. J'ai l'impression de devoir reconstruire les mêmes choses qu'eux. Au-delà du fait que je ne me sente pas tout à fait chez moi ici à Marseille, je ne le suis plus totalement à Lille non plus. J'ai souvent l'impression d'avoir laissé une partie de moi, là-haut, dans le Grand Nord. Et si cela peut sembler exagéré, je sens comme un arrachement de ne plus être tout à fait la même, mais pas tout à fait une autre non plus. Alors, comme une évidence, j'ai relu pour la troisième fois le livre « Rupture » de Claire Marin, encore elle. C'est un essai philosophique, enfin de la philo tranquillou, qui explore les ruptures et comment elles nous transforment. Et en parallèle, j'ai écouté l'émission « Grand bien vous fasse » où Claire était invitée, avec la psychiatre Marie-Claude Gavard. Et grand bien m'a fait. D'après des études, le déménagement est la troisième source de stress, après le deuil et le licenciement. Pour Marie-Claude Gavard, lors d'un déménagement, on revisite son passé, on fait le tri. Un tri qui peut être heureux, mais aussi malheureux. Ce tri peut nous faire revivre d'anciennes peurs ou d'anciennes angoisses, avec toutes les émotions qui y sont associées. Or, nous vivons dans une ère de rupture, où l'on nous demande de nous adapter en permanence, on nous vend le bonheur des nomades digitaux, On nous dit que ne pas avoir d'attache aurait quelque chose de léger, de joyeux, tandis qu'avoir un ancrage serait pesant et lourd. En réalité, cette instabilité nous fragilise, nous dérange, car nous avons besoin de lieux qui fonctionnent comme des repères stables, auxquels on s'accroche, auxquels on se raccroche. Le psychanalyste Alberto Egger dit que les déménagements, qui sont donc des ruptures de vie, sont des moments de détissage de nos fils psychiques, de détricotage de tous les liens qu'on avait créés. C'est de l'ordre du déchirement. Déchirement dans le sens où les ruptures ne sont jamais nettes et précises. Comme l'écrit Claire Marin dans la première page de son livre Rupture, on aimerait que la rupture soit une coupure franche, bien droite et nette, d'un seul coup, comme le sabre qui décapite. Mais la rupture est une déchirure. À la différence de la séparation qui laisserait chacun redevenir la part entière qu'il était auparavant, la rupture est une déchirure. Elle ne retrouve que rarement les contours nets de chacun. On ne rompt pas comme on découpe le long des pointillés. Ainsi, à travers 11 chapitres, très courts, elle passe en revue toutes les ruptures auxquelles nous sommes confrontés dans notre existence, à commencer par la première, la naissance, qui constitue la toute première des ruptures. Elle dit que toute rupture rejouerait d'une certaine manière cet arrachement premier. Elle parle bien évidemment des ruptures amoureuses qui sont des déflagrations et souvent le point de départ d'un recommencement plus général, mais aussi de toutes ces ruptures invisibles qui s'opèrent en nous. Elle écrit « La rupture n'est pas nécessairement visible, fracassante. Elle se fait parfois sans changement flagrant, mais à travers des décisions intérieures, des orientations nouvelles, dans l'abandon de certains pans de l'existence qui cessent d'être vivants. » Elle parle également des ruptures nécessaires pour devenir soi-même. Elle parle d'un « désir d'expansion, de dilatation », qui s'exprime par le besoin de changer d'espace géographique, affectif, professionnel ou psychologique, afin de se créer une vie plus vaste, plus haute, plus libre. Mais ce cheminement vers soi est souvent une crise éprouvante, car découvrir celui que l'on est ou que l'on désire être ne relève pas nécessairement de l'évidence, mais c'est parfois le fruit d'une longue interrogation sur soi. Elle écrit sur la nuit, le lieu des angoisses et de la mémoire torturante. Nos insomnies sont faites de souvenirs trop présents, comme si la conscience ne voulait pas dormir pour ne pas effacer le passé. Elle parle également des ruptures qui sont volontaires, décidées, comme la mienne de déménager. Elle dit « Même lorsque la rupture est volontaire, décidée, même lorsqu'elle s'inscrit dans une affirmation de soi, une révélation d'une identité jusqu'alors muette, elle reste douloureuse. Mais elle dit aussi plus loin « Les ruptures nous construisent peut-être plus encore que les liens. La définition de notre être est tout autant dans nos bifurcations que dans nos lignes droites, autant dans les sorties de route ou les transgressions au contrat que dans le contrat lui-même. » Bref, cette exploration des ruptures au sens large n'a pas répondu à toutes mes questions existentielles, mais ce livre a eu le mérite de me faire écrire une deuxième chronique. Mais surtout, surtout, il m'a rappelé de toujours aller vers la lueur du matin après une nuit difficile. Car on pourrait croire que cet essai est sombre, mais c'est tout le contraire. Ce livre est une ode à la lumière, une ode à la patience, une ode à la construction ou à la reconstruction lente de soi après une rupture telle qu'elle soit, sans tomber dans l'optimisme ou le positivisme qu'on nous sert à longueur de journée dans le développement personnel. Ce livre est une ode à la joie, une ode à ces petites pépites de bonheur qui nous font rester vivants. Car prendre le risque de vivre, c'est faire le pari des joies possibles, c'est avoir la force de se souvenir, même dans la nuit tragique, de l'étincelle de joie qui se tenait en elle. Avec une dernière mise en garde, car il y a dans toute rupture l'espoir de se trouver, mais aussi le risque de se perdre.